tout le monde, bon début de semaine et bienvenue à une autre édition de Sortie de zone. Mon nom c'est Jérémy Filosa, comme à l'habitude, on sera là avec vous aujourd'hui et aussi en fin de semaine, probablement vendredi. À mes côtés pour l'émission d'aujourd'hui du 98.5 FM, Jérémy Rainville. Salut Jérémy.
Salut Philo.
Alexandre Pratt de La Presse. Salut Alex.
Salut.
Et Michael Lalancette dans nos studios à Québec. Salut Mick.
Salutations distinguées. Oh.
Salut les gars. Alors, écoutez les gars, on pouvait pas demander bien plus du Canadien après ce premier voyage dans l'Ouest, un voyage de 6 matchs. Bon, pas tous les matchs étaient dans l'Ouest, là, mais quand même, le Canadien qui récolte une possibilité de 10 points sur une possibilité de 12, c'est vraiment extraordinaire. Et là, déjà, on se pose la question, ce sera quoi lors du retour de l'équipe à Montréal, lorsqu'on aura le deuxième changement? Mais un commentaire global sur ce premier voyage qui s'est très bien terminé, soit dit en passant, on a confirmé aujourd'hui que Tyler Toffoli avait été nommé première étoile de la semaine avec ses 5 buts et ses 8 points. Jérémy, un premier commentaire là-dessus?
Ben, écoute, je suis impressionné de la façon dont le Canadien joue, mais pas nécessairement juste par la production offensive, mais la confiance qui règne au groupe dans ce groupe-là, au sein de ce groupe-là, je voulais dire. Donc, il y a beaucoup de confiance présentement. On a confiance que ce soit à la brigade défensive, à l'avantage numérique, au désavantage numérique, malgré le fait qu'on a connu quelques ratés contre les Canucks de Vancouver, mais on sent que c'est un groupe tout jeune ensemble, qui n'a pas beaucoup qui n'a pas encore développé la méga chimie du siècle parce que ça fait pas très longtemps que tout le monde est ensemble. Mais sincèrement, ce voyage de 6 matchs sur la route, pour moi, je pense que on est pas mal content à l'interne d'avoir vécu ça. Parce que ça permet de mettre tout le monde ensemble dans des situations, des fois, qui sont pas toujours évidentes, mais vraiment, moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir la confiance qui ressort de ce groupe-là.
Tu sais, on a parlé en début de saison du fait que, je pense que c'est Marc Bergevin qui avait dit, on est capable de jouer plusieurs styles de hockey. On l'a vu ce week-end. T'sais, samedi, c'était un match avec un visage un peu différent de ce qu'on avait vu depuis le début de l'année et le Canadien a quand même trouvé le moyen de s'en sortir avec une victoire. Alexandre, un premier commentaire sur ce voyage?
Oui, moi, ce qui m'étonne, c'est l'efficacité. Hein? C'était le défaut du Canadien dans les dernières saisons. Il y avait toujours 4 ou 5 joueurs qui tiraient le club vers le fond. Souvent, l'année dernière, on disait que le Canadien manquait de profondeur. Ouais. Puis, il y avait comme 5-6 joueurs de la Ligue américaine par match dans son club. Et là, c'est vraiment pas le cas. Les 4 trios contribuent, les 3 paires de défenseurs contribuent. Puis c'est pas un facteur chance. Là. Si on regarde, par exemple, les statistiques avancées, là, le Canadien est premier ou deuxième dans à peu près toutes les catégories possibles et inimaginables de la Ligue. Et il se produit 2 choses qu'on avait prévues au début de la saison. Mais bon, tu sais, quand on fait des prévisions, on sait jamais si ça va se réaliser ou pas, évidemment. Mais Jake Allen a démontré qu'il était solide comme second à Carey Price. Mm-hmm. Et surtout, c'est une équipe qui, telle qu'on l'avait prévu, tire beaucoup. Hein? Elle est première de la Ligue nationale pour le nombre de tirs au but par match. Et plus on tire, évidemment, plus on a des chances de marquer et plus aussi on a possession de la rondelle. Donc, l'adversaire le moins souvent. Et c'est ce qui fait que le Canadien marque beaucoup de buts présentement. Honnêtement, c'est vraiment encourageant pour la suite des choses.
Ouais, quand tu dis tirer au but, ce que je remarque souvent, c'est en avantage numérique aussi. Tu sais, on fait circuler la rondelle, mais quand t'as fait 3 puis 4 passes...
On met la rondelle au filet.
C'est ça. Ben puis les défenseurs aussi font la même chose. Ils mettent la rondelle au filet. C'est pas des tirs toujours très compliqués, mais ça atteint la cible.
Philo, tu sais, j'ai vérifié là, avant de venir en onde, le niveau de difficulté des tirs, là, donc en fait, plus t'es proche du filet, plus ça vaut de points, là, en gros, puis plus t'es loin, moins ça vaut de points. Et le Canadien est deuxième de la Ligue là, pour les tirs dangereux depuis le début de la saison par match. Donc, c'est vraiment une équipe qui génère une attaque forte et efficace présentement.
Michael, ton observation du premier voyage du Canadien, mais aussi, est-ce que tu as l'impression qu'on va aller chercher encore une coche de plus lorsqu'on va rentrer à Montréal avec le dernier changement?
Ben, ça peut pas nuire, c'est sûr. Moi, il y a 3 aspects du voyage que j'ai beaucoup apprécié chez le Canadien. Premièrement, je reviens un petit peu sur ce qu'Alex disait, ça vient d'un peu partout. Ça, c'est le fun de voir ça. Chaque soir, il peut y avoir des acteurs, des gars qui prennent la relève, qui prennent les devants puis qui font la différence sur la glace. Ça, c'est le fun parce que ce que ça veut dire, c'est que quand il y aura des joueurs, des éléments importants de la formation du Canadien qui vont peut-être connaître des séquences un peu plus difficiles, bien, il y a des gars qui vont pouvoir venir en relève de ces gars-là. Deuxième point, l'aspect spectaculaire des matchs aussi. Là. Ça a été des matchs qui n'ont pas été ennuyants. Bon, il y en a peut-être eu 1 sur 6 là, qui a été peut-être un petit peu moins passionnant et tout ça. Les autres, ça a été des bons matchs de hockey. Il y avait du côté spectaculaire. On se sentait un peu en séries éliminatoires, même si on ne l'est vraiment pas. Et le troisième aspect, c'est le caractère. Le Canadien a quand même fait preuve de caractère dans des moments importants. Il y a eu de l'efficacité en infériorité numérique. Tu sais, marquer des buts avec moins d'un homme sur la glace, c'est une preuve de caractère. Être bon aussi dans des moments importants des matchs, comme ils l'ont été dans le dernier match, lorsque
exact.
Les Canucks reviennent de l'arrière, sont capables de reprendre les devants. Ça, là, si le Canadien, on avait affaire au Canadien il y a un an, il y a deux ans, généralement, le Canadien perdait ses matchs.
C'est ça.
Là, on les a vus répondre, on les a vus... Puis tu sais, j'ai aimé l'assurance, l'aplomb du Canadien dans le voyage. Moi, sincèrement, ça a mis la table pour une belle saison. Je veux être prudent comme un peu tout le monde, mais ce que j'ai aimé dans le voyage, c'est ces trois aspects-là qui ont ressorti à peu près dans différents moments, de façon différente, avec des joueurs différents, mais en bout de ligne, ça a été la victoire du Canadien.
Messieurs, est-ce que j'ai le droit de cracher dans la soupe un petit peu?
Non,
okay, je suis désolé. Là.
Non.
Je vais cracher un petit peu dans la soupe.
Petit peu, okay. Un
j'ai
petit
une petite
peu.
Affaire, OK? En fait, moi, je pense que, comme Michael le mentionne, je pense que le Canadien a vraiment un punch à l'attaque incroyable. Puis, tu sais, moi, j'ai parlé de la confiance, puis je pense que tout le monde a constaté ça. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que le Canadien peut avoir le défaut de cette qualité-là. Le défaut de la qualité, c'est que présentement, chez les Canadiens, on a le shooting mentality. C'est-à-dire, Alexandre a parlé, on veut marquer des buts. On sait qu'on est capable de marquer des buts. Sauf que, par moment, je trouve que on devient une équipe qui attend un peu de... attendre de se faire piquer avant de réagir. On avait les devant 2-0. Là, ouais. Les Canucks sont revenus. Là, on s'est remis à jouer. Ce que je veux dire, c'est qu'on se fie sur ce talent-là qu'on a développé à court terme. Je dis bien à court terme. Mais pour moi, ça peut être un jeu dangereux. Par moment, on n'était pas nécessairement super bien structuré. Et j'ai l'impression que quand tu vas affronter une formation comme celle des Flames de Calgary, exemple. Je prends les Flames. Les Flames de Calgary qui pourraient amener une formation, peut-être une stratégie plus structurée que celle des Canucks de Vancouver. Vancouver, là, on s'entend, là, ça va pas. Là. Je dis pas
ben que... là, justement, ce matin, tout le monde remet en question à Vancouver la stratégie, la façon de faire, la philosophie de l'équipe.
Là. Exactement, mais là, on a ouvert les vannes. Là, c'était à toi, à moi, à toi, à moi.
Ouais.
Et je trouve que là, le Canadien, je le sais pas sur 56 matchs, jusqu'où le Canadien peut aller là-dedans.
Moi, je te dirais que c'est peut-être des traits qui ressortent de l'année passée où l'équipe pouvait marquer deux buts tôt, ensuite de ça se faire rattraper, mais plus souvent qu'autrement, il se faisait brûler.
Mais là, ils sont capables de revenir. Là.
C'est vrai. Mais Michael parlait du fait que ça vient de partout. Quand tu regardes, là, par exemple, les attaquants du Canadien, 9 des 12 attaquants du Canadien gagnent entre 2 et 5 millions. Fait que, tu sais, t'as pas, comme dans d'autres équipes, un gars qui gagne 12 ou 10, puis les gars qui ramassent des miettes. Donc, c'est très, très, très bien équilibré. Vous savez, les gars, que je suis un amateur de paris sportifs. Je regarde toujours les cotes à droite et à gauche. Et je me souviens spécifiquement, parce que Ron m'avait appelé, le lendemain de la victoire de la Coupe Stanley du Lightning, les cotes sortent. Là. Le lendemain de la Coupe Stanley, déjà, les cotes sortent pour l'année suivante. Le Canadien est à 50 pour 1 pour gagner la Coupe. Quand les camps d'entraînement ont débuté, avant le début de la saison, le Canadien était à 25 pour 1. Là, ils sont à 14 pour 1. Écoute, c'est incroyable. Là. T'es passé de 50 pour 1 à 14 pour 1. Ce sont des chiffres immenses.
Peut-être pour expliquer aux gens, ça veut dire si je mets $1, au début, là, je mettais $1, il me donnait $50 si le Canadien gagnait la Coupe. Maintenant, si je donne $1, il me donne juste 14.
Exactement. Donc, ça veut dire que l'argent rentre là, du côté du Canadien. Les gens croient à cette équipe-là. Donc, le CH, présentement, 7e favori pour remporter la Coupe Stanley, selon les preneurs au livre. Ça veut rien dire. Tout se passe sur la patinoire.
Ben,
mais est-ce que c'est exagéré ou c'est justifié?
C'est pas vrai que ça veut rien dire. Hein. Il y a quand même beaucoup d'études là, qui démontrent qu'il y a une bonne corrélation quand même entre les prévisions des maisons de paris sportifs et la réalité. Pour une raison très simple, nous, si on participe à un pool d'enquête, nous autres, je veux dire, notre risque d'erreur est pas très grave. Une maison de paris sportif qui se trompe.
Ben oui.
Il y a quand même des enjeux financiers très importants. Donc, ils ont tendance à vouloir pas se tromper. On peut dire ça comme ça. Mais moi, je pense que c'est réaliste et même, je pense que ça va continuer de monter pour une raison très simple. Dans sa division, le Canadien apparaît maintenant comme l'équipe favorite. Mmh. Et c'est probablement l'équipe qui est le mieux positionnée pour sortir, je te dirais, de sa division. Il y a peu d'adversaires de très grande qualité, à part peut-être les Maple Leafs. Puis bon, les Flames, on pourrait toujours en discuter, là. Mais il y a beaucoup d'équipes faibles, ce qui assure pratiquement aux Canadiens une place en série en partant. Je vois même pas Ottawa gagner 10 parties là, cette année. Et les Canucks, pour avoir regardé les trois matchs, oh mon Dieu, la défense, Tyler Myers, quelqu'un, là, c'est terrible.
Non, mais il faut faire attention parce que...
probablement même pas dans l'alignement présentement. Donc, quand tu regardes ça, tu dis, OK, c'est pas mal certain que le Canadien va participer aux séries. Une fois que t'es en série, toutes tes chances sont meilleures. Donc moi, que le Canadien soit septième, Je suis pas surpris, puis même je m'attends à ce que ça monte peut-être dans le top 4 dans les prochaines semaines.
Intéressant. Mais faut faire attention, là. Je regarde Winnipeg avec l'arrivée, puis je sais qu'on va en reparler un petit peu plus tard, là, mais avec l'arrivée de Pierre-Luc Dubois, là, t'as une ligne de centre extrêmement solide. T'as Dubois, Scheifele, Stastny en partant. Excuse, là, puis t'as celui qui a gagné le trophée Vézina pour le meilleur gardien de but à l'époque.
Physiquement, là, ça va être quelque chose à affronter les Jets. Là.
Attends, là, ça va être quelque chose. T'as raison, Mick. Puis tu sais, ça va être un gros défi. C'est pour ça que moi je dis, mieux vaut avoir connu ça là, maintenant, c'est-à-dire le festival offensif. Ça comme ça dans le voyage de six matchs. C'est un festival offensif contre des formations qui sont pas nécessairement bien structurées. Quand tu vas affronter Calgary, quand tu vas affronter Winnipeg, excuse-moi, là, t'as d'affaire à jouer du vrai hockey. C'est pas vrai que ça va se finir 6-2, là, à moins que la chaîne débarque. Ça arrive que la chaîne débarque. Mais sincèrement, il va falloir que tu sois plus serré. Oui, je crois aux chances du Canadien, mais avec un Canadien qui apprend au fil des semaines à jouer un jeu qui est un petit peu plus humble sur la patinoire. Et c'est pas le cas présentement. Là. La machine est ouverte,
ouais.
On marque des buts.
Ouais, ben, tant que tu ramasses 10 points sur une possibilité de 12, je pense pas qu'on va changer grand-chose. Les Canadiens sur une planète à part. Là.
Mais contre des clubs qui sont tout croches.
Ouais, oui,
Oilers, Vancouver, c'est tout croche.
Oui, oui.
Quand tu es contre Toronto aussi.
Oui, c'est ça. Tu as joué contre Toronto. Ils sont à plus 11, les Canadiens, en termes de différentiel. Quand tu regardes les autres leaders de division, Vegas plus 7, bon, c'est quand même assez serré. Washington plus 1 et Tampa Bay plus 5. Donc, sont vraiment seuls sur leur petite planète. Toi, ton power ranking, Michael, de cette division-là, la division canadienne, ou si tu veux y aller un peu plus avec les codes de Paris sportifs, là, mais on t'écoute là-dessus.
Ben moi, sincèrement, comme vous, je constate que le Canadien a un excellent début de saison. C'est un élan, ça, qu'ils vont se donner en début de saison comme ça, que c'est après ça, ça peut suivre longtemps. Tu sais, ça te donne une confiance. On regarde, par exemple, juste des gars qui, dès qu'ils intègrent l'alignement, un gars comme Perry marque dans le match. Puis, tu sais, ça, c'est une question de rôle, c'est une question de compétition interne que tu es capable de créer. Puis, quand tu as ça, ben, ça vaut cher parce que même si tu vas avoir des blessures en cours de route, les gars sont capables de prendre la relève, un peu comme je le disais tantôt. Donc, moi, j'aime ce que je vois de la part du Canadien. Mais écoute, là, c'est très tôt dans la saison. Ouais. Elle est beaucoup plus courte que d'habitude. Fait que c'est pour ça que ce début de saison-là, plus le Canadien va être capable d'allonger la bonne séquence, on ajoute des victoires et des points au classement, c'est du bonbon pour eux. Parce que moi aussi, je vois l'opportunité pour le Canadien, c'est sûr. J'y crois, mais en même temps, c'est un début de saison puis je veux être quand même prudent.
Qu'est-ce que vous avez pensé de Corey Perry? Premier match comme ça.
Je vais y aller, OK, Alex? Je débute.
Ah ouais,
voici.
Corey Perry, honnêtement, ses deux premières présences, d'après moi, il s'est demandé, OK, on où c'est qu'on joue, là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, sincèrement, c'est mon garçon regardait le match avec moi, puis il me dit, mon Dieu, il avançait pas.
Mais... Hey, bon fils, il avait-tu hâte de le voir? Puis là, au début de la game, il dit, ah, je pense que j'aurais pas dû.
Mais t'as vu, il s'est adapté, oui. Il a augmenté de rapidité, t'as vu toute son expérience, capable, accroche le bâton, tu sais, l'expérience de Corey Perry, il marque un but sur un filet faible, Dolby, soit dit en passant.
Ouais.
Mais c'était juste le fun à voir. Mais au début, je pense qu'il a trouvé ça vite.
Ouais. Ouais, t'as raison. Vous autres, les gars?
Ouais, ben c'est ça. C'est l'expérience.
Pas dans l'alignement tous les soirs.
Non, c'est ça.
Non, mais c'était important de le faire à ce moment-ci,
oui,
par exemple.
Oui,
ça allait bien. On n'y avait pas beaucoup d'attentes envers lui. Moi, je pense que c'est une rentrée réussie dans son cas. C'est sûr que ça allait vite. Je suis d'accord avec vous. Il y a du dire. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, la Ligue nationale de hockey. Ça va bien.
Bon, écoute, les gars, je veux que vous me choisissiez votre MVP du premier voyage. Là, on prend en considération que Tyler Toffoli vient tout juste d'obtenir la première étoile de la semaine, mais ça, c'est juste pour la semaine. Puis vous pouvez choisir Tyler Toffoli, c'est correct, là, il n'y a pas de problème. Mais qui est votre MVP? Vous ne pouvez en choisir qu'un seul, Jérémy?
Moi, je vais avec Jonathan Drouin. Honnêtement, Jonathan Drouin, pour moi, a joué du bon hockey, même s'il a créé un revirement à un moment donné qui a amené un but. Je pense que c'était face aux Oilers, à moins que je me trompe. Là. Vraiment, ce gars-là joue le rôle que moi, je m'attendais de Jonathan Drouin. Peut-être que les auditeurs, peut-être que les spectateurs, eux, s'attendent à voir Jonathan Drouin avoir des saisons de 40 buts. Moi, je pense que c'est un excellent fabricant de jeux. Je pense qu'il est capable de couper des jeux offensivement par sa rapidité, son échec avant, son intelligence. Et là, il est jumelé à deux gars qui vont bien avec lui. Anderson et Suzuki, ça fit. Le fit est bon, Drouin est bon et moi, je suis heureux de le voir comme ça. Mmh. Tu sais, on disait au début de l'année passée, Jonathan Drouin a connu un bon début de saison. Parfait. Mais c'est rien que qu'est-ce qu'on voit présentement. Comparativement à l'an passé, là, je pense que Drouin est encore meilleur que ce qu'on voyait en début de saison l'année passée.
Mieux pour entouré
moi,
aussi.
Ouais, pour moi, c'est le MVP de ce début de saison chez les Canadiens.
Alexandre?
Écoute, je pensais être original, fait que moi aussi j'avais choisi Drouin.
OK, mais c'est correct.
Juste pour faire un petit peu de millage sur Drouin, Moi, je trouve ses qualités de passeur sont plus en évidence que jamais. Il marquera pas 30 buts là par saison, même sur une saison de 80 matchs, parce qu'il joue avec beaucoup de gars qui aiment beaucoup tirer au filet. D'ailleurs, il y a juste 5 tirs au but hein, depuis le début de l'année, c'est très peu. Mais de la façon dont il bouge la rondelle en avantage numérique, pour moi, c'est une différence marquée par rapport à l'année dernière. Ça explique les succès de l'équipe. Bon, donc je vais prendre un autre, je vais prendre Jeff Petrie. Petrie qui est vraiment dominant ce début de saison. Écoutez, il est plus 9. Quand même, pour un défenseur, après 6 matchs, là, sur une période d'un an, c'est à peu près plus 100 comme différentiel. Fait que si je regarde sur une courte période, il a vraiment été dominant. Pour moi, c'est le meilleur défenseur du Canadien présentement.
Miguel?
Ben, mon choix était aussi Petrie, mais là, comme je me suis fait voler mon choix, je vais y aller avec Romanov. Pourquoi?
Okay.
Parce que c'est un peu héros obscur dans ce voyage-là du Canadien. C'était sa rentrée dans la Ligue nationale de hockey. 19 minutes 5 secondes de temps d'utilisation en moyenne. Il a terminé le voyage avec plus 5. Quand on considère que Chiarot et Weber ensemble ont terminé le voyage à moins 1, c'est quand même une rentrée réussie pour Romanov. Moi, j'ai aimé ce qu'on a vu de lui. Il a été employé en avantage numérique. Il a joué sur l'infériorité numérique. Il a été bon. Tu sais, Toffoli, j'ai aimé, c'est sûr, les matchs contre Vancouver. Ça a été le meilleur joueur du Canadien, je pense, contre les Canucks. Ouais. On regarde les chiffres, là, tu sais, il y avait des chiffres qui mentaient pas. À 5 contre 5, 27-8 les chances de marquer lorsqu'il était sur la patinoire. 16-2 pour les 16-2 les chances de marquer, 27-8 pour les tirs et les buts, c'était 6-1 pour le Canadien contre les Canucks. Alors, c'est sûr que ça a été un gars dominant, mais il a été plus effacé dans le début du voyage. Alors, mon choix numéro 1, c'était Petrie avant de me faire voler, mais j'y vais avec Romanov.
Ben, moi aussi, mon choix, c'était Jeff Petrie. Fait que je pense qu'on a tous remarqué le bon début de saison. C'est drôle, Alex, que t'as choisi Petrie, parce que je me souviens qu'à un moment donné, au début de la saison, il y a deux semaines, je voulais parler de lui, puis t'as dit « Oh, pff, le taux pas si bon que ça, finalement. » Fait que je l'avais enlevé de mes sujets.
Le premier match, il a pas connu un très bon match contre Toronto. Honnêtement, ça avait été vraiment difficile de jouer avec Edmondson, là, puis oh, ils ont passé toute la soirée dans leur zone. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'ils ont fini genre moins 2, je pense, ce match-là, mais depuis ce temps-là, il est vraiment dominant. Là.
Non, c'est incroyable.
Edmondson aussi, hein, par ailleurs,
oui, j'ai
on en parle
amélioré.
Peu, là, mais Edmondson qui était très bien parti, il est plus 8. Là.
Ouais.
Souvenez-vous, après la première partie, là, tout ce qu'on pouvait dire, entendre, lire à propos d'Edmondson, ah, ça va être une saison difficile, un mauvais contrat, on a de sorte que le repêchage expansion arrive. Honnêtement, il a très bien joué là, depuis le deuxième match de la saison. J'ai vraiment rien à lui reprocher.
Ouais, mais le gars, il faut juste mentionner dans le cas de Joel Edmondson, là, moi, ça me faisait penser beaucoup à Ben Chiarot lorsqu'il est arrivé avec le Canadien. Ça bouge vite chez les Canadiens. Corey Perry s'en est aperçu. Puis quand tu arrives dans ce club-là, tu t'aperçois que la transition est rapide. L'échange sur la patinoire est rapide. On change rapidement de territoire. Fait que donc, il faut que tu sois allumé. Il faut que tu sois, j'utilise le terme en anglais, il faut que tu sois sharp. Et c'était peut-être pas le cas de Joel Edmondson pour le premier match. Mais à un moment donné, quand tu joues avec Petrie, t'es tout le temps sur la glace. Tu sais, le niveau d'exécution s'améliore. Puis c'est ce qu'on voit avec Joel Edmondson.
Écoute, il y a 7 points depuis le début de l'année. C'est le meilleur pointeur de la Ligue nationale. Moi, je le trouve tellement beau à aller voir Jeff Petrie. Puis c'est pas un petit monsieur non plus. Là, il est grand. Puis tout ça. Moi, je pense que Petrie est en train. Cette année, là, ça va être l'année où il va passer devant Weber en termes d'importance. Weber, c'est le capitaine.
Moi, je pense que t'as là l'année passée aussi.
Oui?
Moi aussi, je pense que c'est là l'année dernière.
Moi, je trouve que c'est peut-être cette année où la transition va se faire
complètement. Weber, c'est honorifique. Weber, ça représente gros. Ça représente gros sur la patinoire. Ça représente gros dans le vestiaire. La présence est importante. Son jeu physique est important. Son lancer frappé est important.
Mais dans l'ensemble...
Mais le meilleur défenseur, pour moi, s'appelle Jeff Petrie.
Oui. C'est assez incroyable. Non, moi aussi,
je vais juste souligner, là, mais tu sais, pour Shea Weber versus Jeff Petrie, Shea Weber, c'est le seul défenseur qui a un différentiel négatif depuis le début de la saison chez le Canadien.
C'est vrai.
Il a 4 points tous en avantage numérique, là. Petrie est un bien meilleur joueur présentement à 5 contre 5.
Ouais, c'est incroyable, là, quand tu sors de là avec 5 victoires sur 6. C'est-à-dire, tu as 10 points sur une possibilité de 12, puis tu trouves quand même le moyen d'être dans les négatifs. C'est pas catastrophique, le moins 1, mais c'est quand même représentatif. On a parlé il y a quelques instants d'Edmondson. C'est lui qui a décidé de laisser tomber les gants pour, entre guillemets, régler le problème de Tyler Myers. J'ai trouvé ça, je me répète, très plate que la Ligue nationale ait laissé ça dans les mains des joueurs. Mais qu'est-ce que vous avez pensé du geste, Michael? Je commence avec toi.
Ben, je tiraille un peu parce que moi, je trouvais la semaine dernière que la Ligue nationale avait manqué une occasion sérieuse de dire on règle ça et on le sanctionne pour la mise en échec et tout ça. Là, ça a été une incitation à dire OK, réglez ça entre vous autres. Les gars, là, nous autres, on se dégage de ça. Dans les règlements, dans la façon que nos règlements sont écrits, il n'y a pas de suspension qui est accordée à ça. Alors, faites-vous justice vous-même. C'était un peu ça le message qui a été passé. Mais en même temps, pourquoi je suis tiraillé de ça, c'est que je sais que dans une chambre de hockey, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est que chaque joueur doit faire, doit se défendre ou en tout cas honorer un peu sa façon de jouer sur la glace. Puis au fond, ça a été réglé en partant. Puis je suis persuadé que dans le vestiaire, ça a été apprécié. Alors, c'est pour ça que je suis un peu tiraillé, parce que je sais que concrètement, on a beau déchirer nos chemises, à pas aimer ça. T'sais, c'est sûr que c'est pas. Le hockey n'est plus ça. Mais dans une chambre de hockey, c'est encore bien accueilli. Puis je suis persuadé qu'il y a eu des tapes de ses coéquipiers après la première période, dire hey, good job, on est content de ce que tu as accompli. Sauf que on est passé complètement à côté de la bonne façon de régler ça.
Je suis très d'accord avec toi. Alexandre?
Ben moi je suis d'accord. En fait, je suis vraiment contre les bagarres là, dans la ligne nationale. J'ai dû écrire 42 chroniques là-dessus. Là. Mm-hmm. Mais je suis contre. Par contre, ici, je mettrai pas la faute sur Joel Edmondson, ni même à la limite le Canadien. Je trouve que c'est la ligue nationale qui aurait dû sévir. Puis elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas puni correctement Tyler Myers. Dans les circonstances, les joueurs ont décidé de se faire justice eux-mêmes. Je pense que c'est inévitable. Je veux dire, c'est comme ça dans toutes les sphères de la vie. Là. Quand il y a de l'injustice, il y a toujours quelqu'un quelque part qui va être prêt à prendre la force pour réparer une injustice. C'est la même chose au hockey qu'ailleurs. J'aime pas voir ça. Je suis totalement contre ça. Maintenant, je comprends aussi les raisons pour lesquelles Joel Edmondson a jeté les gants.
Ah, mon Dieu, messieurs, je vous trouve poli. Caroline, que je vous trouve poli.
Bon. Honnêtement. Attends, là, j'ai pas encore parlé, moi.
C'est ce qu'on a vu là, puis je suis d'accord avec Michael, mais j'ai joué au hockey, ça m'est arrivé de venger une mise en échec, que je me suis battu. Je pense que le temps a changé. OK, oui, c'était pas dans la Ligue nationale, c'était tier 2, junior 3 à l'époque, mais c'est arrivé quand même. Puis oui, c'est vrai, quand tu reviens au banc, les gars t'applaudissent, puis tu fais ta marque dans le groupe. Tu sais, tu défends quelqu'un du groupe, tu fais ta marque dans le groupe, c'est comme ça. Vous allez me dire, c'est un peu néandertal, vous avez raison, mais c'est comme ça. Bon, ça, félicitations à Joel Edmondson, il était inclus dans le groupe, félicitations à lui. Mais ce qu'on a vu, là, pour moi, là, ce qu'on a vu, c'est un freak show. C'est un freak show. Pourquoi? Parce que, en plus, regardez les images, OK? En plus, on est en mise en jeu. Moi, c'est l'affaire que je déteste le plus au hockey, c'est les bagarres setupées, là, comme ça. Ouais. Était prévu depuis. Oui. Non, mais écoutez bien, était prévu depuis la période d'échauffement.
Exact.
Edmondson avait été voir Tyler Myers en disant, hey, buddy, t'entends-tu? Go, OK, bon, ça, c'était prévu. On arrive à la mise en jeu. Les deux, il se passe rien, jette les mitaines. Ce qui m'a fait halluciner, c'est de voir les juges de ligne. C'est leur job. Malheureusement, c'est leur job. De tasser les gants. On tasse, on claire la place. Allez-y, les gars. Allô, on est où, là? On est en 2020.
Hey, puis Jérémy, t'as tellement raison. Là. Ça a pris à peu près 40 secondes avant que les juges de ligne interviennent.
Hey, un peu plus, ils enlevaient le coude. Un peu plus, ils enlevaient le coude puis commençaient à se peigner les cheveux.
Je
là.
Me demandais s'ils allaient enlever leur casque. Parce que
non,
là,
c'est une pénalité. Non, mais c'est une pénalité si t'enlèves ton casque.
Ben, les deux. T'es enlèves les deux.
Mais puis... ben avant, ils se faisaient signe, les deux, maintenant. Ben oui. On l'enlève. Ben ça, oui. C'est complètement stupide. Moi, ce que je veux dire, là, puis je répète, là, sincèrement, si moi je jouais au hockey aujourd'hui, je serais pas capable parce que c'est trop rapide, mais je serais un criminel, là, parce qu'à l'époque, ça m'est arrivé de me battre au hockey. Je comprends le principe. Mais que la Ligue nationale, en 2020, permette ça, ça va à l'encontre de ce qu'on dit publiquement depuis des années.
Ouais, mais les gars, on le savait depuis la semaine passée.
Puis
on l'a dit dans le podcast de vendredi que ça allait arriver.
C'est un désaveu à la décision des officiels. Sur la glace, on a donné une pénalité majeure
c'est
à
sûr.
Tyler Myers.
Ben oui.
Fait que donc, la Ligue nationale de hockey n'appuie pas ses officiels et dit « Nous, on fait rien ». Qui a fait ça? George Parros. George Parros qui a terminé sa carrière avec les dents dans la glace parce qu'il s'est planté après une bataille.
Exact.
Tu sais, je le sais, là, je veux pas avoir l'air alarmiste, je veux juste dire c'est un freak show.
C'est un freak show.
On arrête
mais
ça.
T'es pas alarmiste. T'es pas alarmiste, là, je pense, Jérémy. Je pense que la majorité des gens pensent comme
tout,
toi. Là.
Tout ce que tu dis fait plein de bon sens. En même temps, les gars, pour moi, la pénalité, là, est pas assez sévère à Myers. Oublie le fait qu'il n'a pas été suspendu. Ben, là. Moi, là, m'a dit une affaire, là, je l'aurais frappé toute la maudite soirée. Pis j'aurais dit au gars, là, toutes les chances que vous avez, vous le frappez. Puis c'est juste à la fin de la game que quelqu'un va aller le voir. That's it. Parce que là, tu te coupes ta petite tache, mais non, ça va s'asseoir. Ben, puis là, c'est fini. Ouais, mais attends, là, mon chum, il est encore commotionné.
Ouais,
là,
mais c'est pire de cette façon-là. Va falloir à un moment donné se rendre compte. Et puis je sais pas ce que vous en pensez, gars, mais c'est je pense ça. Va falloir se rendre compte d'une chose, là, c'est que l'officiel a le livre de règlement vraiment dans les mains. Okay? Et la Ligue nationale de hockey doit appuyer ses officiels, doit s'assurer que ceux qui prennent les décisions, premièrement, ils n'ont pas de consigne pour dire « donne-en plus en début d'année, donne-en moins en fin d'année ou dans série ». Il faut laisser les officiels arbitrer. Ça, c'est un. Puis deuxièmement, ce qu'on voit dans cette situation-là, ça peut être dangereux. Ça peut. Les gars sont tous les deux là. Ça se peut qu'il y en ait un qui en mange un sur le caisseur. C'est solide,
sûr.
Là.
C'est sûr.
Puis que ça finisse comme Paras.
C'est
tu
sûr.
Veux pas ça?
Ben, on le voyait pas, Edmondson, tu veux pas ça, quand Edmondson est rentré. Quand Edmondson est rentré au banc, là, il y avait quand même des lacérations le long des jointures des doigts. Là.
Ben, c'est sûr. C'est ça, les gars, ils ont des visières. Grave, les gars ont des casques. Mais tu sais, ça a pas de bon sens.
Mais... Je vous le dis, je vous le répète. Là, vous écoutez ça à la maison, peut-être dans votre véhicule. Puis là, vous dites à Rainville que c'est ça. Puis blablabla, va faire du patinage artistique. Je vous le dis, là.
Non, mais les gars, aujourd'hui, sont plus forts
à
que jamais.
À 18 ans dans junior, j'ai 136 minutes de punition. Là. Et c'est pas parce que c'était des pour avoir retenu. Là. Je vous garantis. Là, okay? c'est déjà arrivé. Je suis pas contre ça. La seule chose, c'est que je pense que le sport a changé au fil des années.
Mais je pense... On parle de ça, mais on sent, dès qu'on parle de ce sujet-là, là, on la sent la réticence à l'interne dans le milieu du hockey. Les, tu sais, on dirait que c'est comme si qu'on a évolué, la société a évolué beaucoup plus vite que les dirigeants, puis c'est ça qui est déplorable. Ouais.
Pourquoi Mick, tu penses, selon toi? Parce qu'ils veulent vendre des tickets.
Là, ben oui.
C'est sûr que là, ils en vendent pas. Mais logiquement, sinon, c'est la seule chose, parce que ça rend le sport particulier, puis tu vends des tickets avec ça.
Moi, il y a une chose, les gars. À partir du moment où les arbitres décident que c'est 5 minutes, une punition majeure, il devrait avoir une suspension automatique d'un match.
Ben oui.
Et seulement si la Ligue juge que clairement on s'est trompé, on enlève la suspension.
Kéké, l'année passée, dans une série, là, tu frappes dans le visage, un 5, un 10, un match, c'est tout.
C'est ça.
Cette année, t'as un 5, un 10, extrême inconduite, un match.
Exact. T'as un match. Ensuite de ça, si vraiment les arbitres ont erré parce qu'ils ont vraiment mal vu, on peut revenir sur la décision puis dire non, il y aura pas de match de suspension. Mais là, écoute, on aurait évité tout ce scénario samedi soir à Vancouver.
Mais sans porter, j'ai chaud.
Là, les gars, je vous avais parlé un petit peu de ça vendredi. Je sais que Jérémy, t'étais pas là, mais j'ai une question à vous poser, puis là, c'est hors champ parce que ça n'a pas rapport avec la séquence actuelle du Canadien. Mais moi, j'ai toujours la fin de la saison en tête. Puis l'entre-saison, puis comment on va s'organiser pour l'année prochaine, puis tout ça. Puis je veux vous poser une question. Vous me répondez seulement oui ou non, puis après ça, on va débattre. Si vous étiez un directeur général en train de bâtir une équipe de hockey de zéro et qu'on vous proposait, et vous aviez la chance de mettre la main sur Carey Price pour 10,5 millions de dollars jusqu'à la fin de 2026, est-ce que vous le prenez? Jérémy?
C'est une bonne question. Une excellente question.
C'est
oui
ou non?
Je pense que oui. Je pense que oui. T'as pas le choix. Si tu veux avoir le gardien de but, t'es obligé de prendre le 10,5.
OK, parfait. Alex?
Oui.
Michael?
Moi, j'ai-tu le droit de dire oui, mais non? Dans le sens que je le prends si je veux un joueur, si je veux une bonne équipe de hockey avec un gars vedette qui est capable de vendre des billets, intéresser les partisans et tout ça. Si je veux gagner la Coupe Stanley, non.
OK.
Mais bon, si tu pars de zéro en partant, tu n'as pas d'erreur sur ta masse. Si on prend, par exemple, un club d'expansion, il n'y a pas d'erreur déjà en partant sur ton équipe, dans ta formation. Fait que tu peux prendre des risques comme celui-là. Tu as en masse de marge de manœuvre là, sur ta masse salariale.
Bon, là, ce que Michael vient de dire est très important parce que ça rejoint le Canadien. Si tu essaies de gagner la Coupe Stanley, non. Bon, là, ma question, c'est, on le sait que Seattle s'en vient dans la Ligue l'année prochaine. Ils vont vouloir avoir un super. Ah non, mais peut-être pas protégé, oui. Mais il y a peut-être moyen de procéder à une transaction. On a vu Fleury l'année passée qui s'est retrouvé avec les Golden Knights. Mais moi, ce matin, là, je m'amusais là, avec mon cap friendly. Là, puis là, je regardais. Puis je pense que l'une des seules solutions de garder toute cette équipe-là ensemble, parce qu'on aimerait ça, la garder ensemble, c'est de laisser partir Carey Price.
Arrête.
À 10,5 millions.
Jamais dans 100 ans.
Mais tu règles tous tes problèmes de cap salarial.
Oui.
Tu règles tout.
D'une question mathématique, t'as raison.
Ah, tu claques les doigts, là, puis là, t'as plus de problème de masse salariale. Tu peux signer sans problème Tatar, tu peux signer Dano, tu peux signer tout ce que tu veux sans problème. Tu peux même ajouter des éléments si tu veux.
OK. Chez les Canadiens, depuis le départ de Patrick Roy, le club va nulle part. L'organisation va nulle part. Là, t'as un bon gardien, t'avais pas de club. Là, t'essayes d'avoir un club, là, t'as un bon gardien, puis il va s'en aller. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut être conséquent. Selon moi, faut être conséquent chez les Canadiens.
Donc, mais là, c'est parce que là, si tu le gardes, ça veut dire qu'il y a des gars dans le club qui vont sauter.
Attends, mais je continue. Mon point est suivant, c'est que je ne sais pas si tu as remarqué cette année, avec l'arrivée de Toffoli, avec l'arrivée de Josh Anderson, avec l'arrivée de Jake Allen, avec l'arrivée de Joel Edmondson, il y a un niveau de confiance qui s'est bâti dans le vestiaire en disant « Oh, OK, l'organisation est sérieuse, on nous amène des ressources, on nous amène des outils pour être capable de gagner. » Tout le monde y croit parce que des gars qui sont arrivés. Si tu arrives avec ces gars-là puis t'enlèves Carey Price, oublie ça. Tu viens de faire opération nulle.
Mais pas cette année, là.
Non, mais c'est exemple, là, je sais pas, l'an prochain, dans deux ans, le repêchage expansion, c'est là.
Non, mais je pense que si tu ramènes Dano, puis tu ramènes Tatar, puis tu ramènes... Ouais, ils vont aussi être contents de tous être de revenir.
Tu viens d'annuler ce niveau de confiance-là pour moi. Tu viens d'annuler. Tu peux pas. Tu peux pas. Ce gars-là, et il va finir sa carrière avec le Canadien. Va finir sa carrière avec le Canadien. Que vous aimiez ou non, il va finir sa carrière avec le Canadien.
J'aime pas l'équation mathématique du contrat de Carey Price.
Moi non plus. Mais c'est eux qui ont décidé de se donner. C'est eux qui vont vivre avec les conséquences.
Ouais, mais c'est nous en même
aussi,
temps.
Ils n'avaient pas le choix. Là. Je fais juste remettre ici en question, là, mais quand Carey Price a signé, là, les Canadiens n'avaient pas le choix de le signer. Là. C'était non seulement le joueur de concession, mais c'était une des rares vedettes qu'il y avait encore dans l'équipe à ce moment-là.
Tout à fait d'accord.
Puis, pouvez-vous juste vous imaginer, Carey Price part, puis après ça, tu t'en vas à la chasse aux joueurs autonomes. Qui aurait voulu le signer à Montréal?
Ben non. La décision qui a été prise, c'était la bonne décision. Maintenant, on est rendu quelques années plus tard. Et la situation évolue aussi. Michael, là-dessus?
Non, ben c'est ça. Ben, je pense que au fond, vous venez un peu de résumer la situation. C'était, ils n'avaient pas le choix de lui accorder ce contrat-là. Sauf que ça a eu des conséquences par la suite. Puis ça a fait en sorte que la petite marge de manœuvre qu'ils avaient, qu'ils n'ont pas voulu dépenser, ben ça, c'est à eux de la défendre maintenant. Est-ce que ça aurait pu accélérer la façon de relancer l'équipe avant ce qu'on connaît cette année? Peut-être. Mais là, ils sont pas nés. Moi, je suis un peu d'accord avec Jérémy là-dessus. Je trouve que le Canadien est un peu pogné avec ce contrat-là, mais en même temps, là, ils l'ont, puis là, l'équipe il commence à se relancer, commence à croire qu'elle peut accéder aux grands honneurs. Là, tu peux plus l'échanger. Ça ne cadre plus là, dans cette...
Écoute, moi, je vais dire oui, ils sont pris avec, mais il y a une alternative, c'est Seattle. Parce que je pense que Seattle va vouloir faire un splash.
Jamais dans 100 ans, Philo. Jamais dans 100 ans.
Ouais!
Hey, je discutais avec Pierre Mondou de l'organisation des Devils New Jersey, OK?
Oui.
Puis Pierre me dit, j'en reviens pas Carey Price, j'en reviens pas que ce gars-là, depuis son arrivée à Montréal, il a jamais demandé. Il y a une fois qu'il a dit, je me sens pas trop bien quand je vais à l'épicerie. Ouais. Il a jamais dit un mot, il a jamais rien fait. Tout le monde bûche dessus à qui mieux.
Et non, puis, on discute. Oui.
Arrête, Philo. Moi, je les entends le soir. Je les entends le soir. Puis le soir, je vais te dire, il y en a plein qui sont pas contents.
Après la défaite de 6-5,
je pense que la problématique de Carey Price, évidemment, tout le monde regarde le montant à son contrat, puis on juge l'argent. Parfait, numéro un. Je comprends. Puis ça, je pense.
T'as pas le choix. Dans un cap world.
Exact. Sont obligés, on a le droit de critiquer, puis je comprends le principe.
Moi, je critique pas. Moi, je suis un gars de chiffres.
OK, mais attends, je reviens sur une chose. Je pense qu'il y a une affaire qu'on a oubliée. Nous, là, ici, là, au Québec, souvent, on est en manque. Tu sais, on est en manque d'espoir. On est en manque de super-héros. Fait que donc, quand on en pogne un qui est pas pire, ben là, on arrive et on dit fan du statut, c'est pas trop long. Là, moi, je pense qu'il faut juste réaliser une chose. Oui, je comprends que c'est un 10.5 pour Carey Price. Oui, je comprends que c'est longtemps. Mais je pense que c'est un bon gardien de but. C'est pas le meilleur au monde. C'est pas le pire au monde. C'est un gars qui a des plus grosses jambières que les autres. Puis il faut qu'il fasse sa job. Là, maintenant, là, la job est à Carey Price. C'est pas de dire, le club est pas bon. Non, fais ton travail. Sois bon quand c'est le temps.
C'est sûr, il n'y a plus d'excuses.
Sois bon quand c'est le temps. Parce que là, il y a un bon club.
Tout ce que je dis, dans le fond, les gars, puis je vous laisse poursuivre là-dessus, c'est que l'année prochaine, si tu me donnes le choix, OK? On garde Carey Price, mais là, on revient à ce qu'Alex disait au début de l'émission. Un trio où t'as trois gars qui devraient être dans la Ligue américaine, mais là, regarde, t'as plus le choix. T'as perdu Tatar, t'as perdu Dano.
T'as Paul qui peut partir. T'as Jordan Will, tu l'auras pu.
Non, mais Jordan Will, il est déjà à la balle.
Joel Armia devient joueur autonome sans compensation. C'est 2,6 millions qui vont sortir. Seattle va probablement prendre un des défenseurs du Canadien. Mm-hmm. Edmondson, Sherrod gagnent chacun 3,5 millions. Juste là, c'est 6 millions là, qui disparaîtraient de la masse.
Ben, moi,
on s'est même pas rendu à Lekkonen. Tatar reviendra peut-être pas. Il va peut-être en vouloir un autre à la place. Il y a quand même de la marge de manœuvre.
J'ai compté ce matin, OK, qu'on pouvait avoir tout le monde sous contrat, sauf Armia et Lekkonen avec 3 millions de lousses, sa masse. Avec ce qu'on a dépensé présentement, puisque les gars devraient avoir l'année prochaine, là, tu peux garder tout le monde. Tatar, Dano et tout ça. Puis t'aurais 3 millions de lousses, mais là, Dano n'est pas signé, puis Armia n'est pas signé.
Oui, mais Seattle va prendre un joueur, là, le joueur qu'ils vont prendre, c'est sûr qu'il va gagner en haut de 2 millions par année en partant. Là, donc, il y a un 2 millions qui va s'effacer là. Bon. Puis probablement, ça va être un joueur à 3,5-4 aussi. Là.
On va avoir le temps d'en débattre pendant à peu près 4, 5, 6 mois avant qu'on se retrouve.
Philo, il est content, il est parti à Chenoute. Là.
Moi, je suis un gars de chiffres, les gars, puis je cherche des solutions. Ben oui. Je cherche des solutions mathématiques. Bon, on va parler de ce qui s'est passé ailleurs dans la Ligue nationale. Il faut revenir sur la transaction de Pierre-Luc Dubois samedi matin qui est passé aux Jets de Winnipeg, entre autres, pour Patrick Laine, parce qu'on n'a pas eu la chance de s'exprimer là-dessus depuis que ça a tombé. Ben, moi, j'ai eu l'émission samedi après-midi, donc je vais vous laisser vous exprimer sur cette transaction-là. Michael, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de cet échange?
Ben, moi, je pense que pour les Jets, c'est une bonne transaction. Les Jackets, dans les circonstances qu'on connaît avec ce qui s'est passé dans le dossier Pierre-Luc Dubois, je trouve qu'ils ont limité les dégâts en termes hockey. Mm-hmm. Mais c'est un soulagement pour Pierre-Luc Dubois. Là. T'sais, il se retrouve dans une autre organisation où est-ce qu'il connaît bien son père qui est au sein des Jets dans la Ligue américaine. Il va arriver là-bas, s'intègre à une bonne équipe de hockey. Jérémy te parlait tantôt de la ligne de centre. C'est une équipe qui en attaque imposante physiquement. Le style de jeu que Pierre-Luc joue, je pense qu'il va bien cadrer chez les Jets. Mais tu sais, c'est un fiasco un peu de gestion quand même pour les Blue Jackets, à mon point de vue. Ils ont fait le pari de se ranger derrière l'entraîneur. C'est un peu ça. Là. Ultimement, là, quand on regarde le résultat des courses, c'est qu'ils ont défendu John Tortorella. Ils ont sacrifié Pierre-Luc Dubois. Puis, je souhaite bonne chance à Patrick Laine. Sincèrement, là, je lui souhaite la meilleure des chances d'être heureux le plus longtemps possible à Columbus. Puis, on va voir qu'est-ce que le bon John va faire avec Patrick Laine.
Mais qui va sortir gagnant de ça? Ben, moi, je parle pas des équipes, mais je parle des deux joueurs. Qui va mieux s'en tirer?
Dubois, clairement. Dubois, clairement. Tu sais, puis je sais pas ce que vous en pensez, vous autres messieurs, mais moi, quand je regarde Patrick Laine qui s'amène avec les Blue Jackets de Columbus, et nonobstant, si John Tortorella continue son périple avec les Jackets, je pense que l'ADN de ce club-là, c'est des travaillants. C'est des gars qui physiquement s'impliquent, c'est des gars qui ne lâchent jamais. Le coach en place nous a bâti, et le DG en place, nous a bâti une formation qui est dans ce sens-là. Là, t'amènes Patrick Laine. Patrick Laine, c'est un gars qui, par moment, est tout feu, tout flamme, ouais. Et par moment, est dans le marshmallow. Quand ça va aller bien, ça va être le fun. Ouais. Mais quand il va être dans le marshmallow, qu'est-ce qui va se passer?
Ce qui me fait peur, c'est que Patrick Laine n'a pas toujours non plus la réputation de back-checker. Tu sais,
c'est ça que je te dis.
Ce qui se passe en arrière dans son territoire, ça l'intéresse rarement.
Non, mais c'est un marqueur.
Puis John
de but.
Tortorella, là. Il y a horreur de ça, là.
Mais moi, je comprends pas. Un marqueur de but, vous savez comme moi, quelqu'un qui est là pour marquer des buts, Mike Hoffman, marque des buts, c'est un gars souvent qui va tricher défensivement, tu sais. Puis on l'accepte parce qu'il marque des buts. Est-ce que l'organisation des Blue Jackets va accepter ça de Patrick Laine? Peut-être pour une saison, peut-être deux, mais sinon, moi, je vois pas le mariage à long terme entre les deux formations.
C'est ça. Il va-tu vouloir rester à Columbus? Ben c'est la grande question, ouais. Peut-être qu'on
parle-en à Panarin, d'après moi, non. Hein?
Mais il n'y a pas le gros bout du bat, parce que là, il est agent libre avec restriction, donc, tu sais, il peut
puis
pas...
Puis en plus, c'est que Pierre-Luc Dubois... Chose,
Dubois serait pas resté de toute façon.
Non, c'est ça. Il n'avait pas lui non plus le gros bout,
de toute façon.
Mais vous voyez, Dubois a prouvé hors de tout doute qu'un joueur insatisfait peut sortir de Columbus. Fait que là, ils viennent de montrer la marche à suivre.
C'est drôle que tu dises ça parce que je réfléchissais à ça ce matin. Puis tu sais, au soccer, c'est des choses qui se voient. Les équipes vont bencher les gars jusqu'à temps que le gars stand puis accepte de s'en aller. Ou les gars vont faire la baboune, se présenteront pas. Au hockey, on voit moins ça. Tu sais, des gars qui vraiment se placent dans une situation pour s'assurer de se faire sortir de là. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'on va voir d'autres joueurs procéder comme ça, Alexandre, selon toi?
Non, je pense pas. En fait, puis je suis pas sûr que c'est nécessairement aussi ce qui s'est passé. Hein. Je suis pas convaincu que c'est Pierre-Luc Dubois qui là-dedans a été le plus fautif. Là, je suis pas sûr que ce soit tant placé que ça dans une situation difficile qu'il a été placé dans une situation difficile. Tu sais, quand t'es gestionnaire, puis je l'ai été là quand même pendant 18 ans, là, quand t'as un employé difficile, ce qui semble être le cas avec Pierre-Luc Dubois, il y a deux façons de réagir. T'sais. On appelle ça, il y a deux stratégies ressources humaines. Il mm-hmm. y a la fuite ou la confrontation. Mm-hmm. La fuite, c'est ça va s'arranger, puis on fait rien, puis on laisse le problème durer. C'est un petit peu ce qui est arrivé avec Patrick Laine à Winnipeg d'ailleurs. Ou l'autre stratégie, c'est la confrontation. Puis c'est de prendre le problème, puis de l'attaquer, puis d'essayer de trouver des solutions. Mais habituellement, c'est un travail qui est fait en coulisses. Et là, ça a été fait sur la place publique. Et c'est, c'est probablement ce qui n'a pas fonctionné. Tu sais, ce que j'entends là, depuis 2-3 jours, c'est que notamment Tortorella a demandé à ses adjoints, par exemple, de cesser de parler à Pierre-Luc Dubois depuis le début du camp d'entraînement. On a fait enlever toutes les pancartes avec Pierre-Luc Dubois autour de l'aréna. Tu sais, ce genre de geste-là là, qui rentre dans la tête d'un joueur, pour moi, ça, c'est très malsain. Puis que l'équipe de direction a laissé faire ça, c'est-à-dire, oui, tu dois confronter. Moi, je suis plus d'école que tu dois confronter, que tu dois fuir quand tu as un problème devant toi, mais tu le fais en privé, tu ne le fais pas en public. Ça a été hyper mal géré, cette situation-là. Ce qui a fait qu'au final, en fait, on a eu un théâtre épouvantable jeudi dernier où là, le directeur général devait choisir finalement entre Tortorella et Dubois sur la place publique. Il avait pas le choix de prendre Tortorella, à mon avis, parce qu'en effet, sinon, ça indique la marche à suivre pour tous les autres. Et il y a quand même eu un bon retour. Moi, je pense... contrairement à vous, moi, je pense que les deux joueurs vont en profiter. Je pense que Patrick Laine, d'abord, est un marqueur extraordinaire. Là. Mm-hmm. Juste vous dire, là, chez les joueurs de moins de 22 ans de la Ligue nationale, il y en a deux qui ont plus que 100 buts. Il y a Matthews qui en a 160, Laine 140 et tous les autres sont en bas de 100. C'est un gars qui a un talent exceptionnel et ça ne fonctionnait pas pour lui à Winnipeg. Il était en froid avec l'organisation de la même façon que Dubois était en froid avec l'organisation à Columbus. Il peut aussi relancer sa carrière. Et des fois... Des fois, le feu plus le feu, ça peut faire un plus gros feu, là, mais ça se peut que ça fonctionne avec Tortorella pour l'année.
Je pense pas.
Et, moi non plus, je pense que c'est
les organisations sont identiques, Alex. Les organisations sont identiques. Ouais. Winnipeg, Columbus, c'est le même principe. On travaille fort, on fonce au filet. C'est la même chose. Ça n'a pas marché l'année avec Winnipeg, ça ne marchera pas avec Columbus.
Je peux pas croire que Kokalainen, la prochaine fois, ils vont encore prendre le bord de Tortorella. C'est ça l'affaire. Parce que moi, j'ai même été surpris qu'il l'embauche, mais ça, c'est une autre histoire. Je voulais parler un petit peu des Rangers, mais regarde, on reviendra là-dessus au cours des prochaines semaines. Ils n'ont pas un bon début de saison présentement. Alexis Lafrenière a passé très près hier de marquer, mais ça n'a pas fonctionné pour lui. J'ai trois questions, les gars du public, donc je vous en lance une chacune. Michael, je vais commencer avec toi. Question de Sonic qui nous demande, c'est-à-dire, quel prospect du Canadien a le plus de chances d'être le prochain Jake Evans? Une surprise peut-être, ou un joueur qu'on n'attendait pas, mais peut-être un gars qui peut, dès l'année prochaine, faire le saut dans la Ligue nationale et faire partie du groupe là, des gars qui vont être dans l'équipe.
L'an prochain, je ne sais pas, mais Jordan Harris, j'aime la progression de ce gars-là. Il joue dans le même calibre, dans le même niveau que Jake Evans à l'époque. Il a quand même 4 ans de moins que moi que Jake Evans. Alors, l'année prochaine, c'est peut-être tôt pour lui, mais c'est un gars qui bouge bien la rondelle, défenseur gaucher. Alors, lui, moi, je pense que je le placerais dans cette catégorie-là de joueurs. Les échos qu'on a de lui depuis un an, une belle progression et tout ça sur la glace, c'est le nom que j'aurais envie de soulever, mais peut-être un peu trop tôt pour l'an prochain.
Bon, Alexandre, avec 5-6 matchs de disputés par équipe, quelle est, selon toi, la meilleure division? En fait, ce qu'il demande, là, c'est la plus équilibrée. Question de Oli Balboa.
Ben, la plus équilibrée, pour moi, c'est la division, je ne sais pas comment on l'appelle exactement, de l'Est, là, celle dans laquelle évoluent tous les clubs de New York.
Exact. Bon,
je pense que c'est une division qui est plus équilibrée. J'ai vraiment de la difficulté à faire voir qui sont les 4 clubs qui vont sortir. T'en parlais, les Rangers sont mal partis, mais... Je les ai mis dans les favoris pour cette division-là. Je pense qu'ils vont rebondir. Et c'est vraiment ça, c'est tous les soirs, c'est pas mal impossible de dire qui va gagner, à part peut-être Tampa qui est un petit peu plus fort. Là. C'est plus équilibré que la division canadienne, où pour moi, c'est vraiment un groupe divisé en deux. Il y a 4 clubs qui sont bons. Il y en a un dans le milieu, là, Edmonton, puis t'en as 2 à la fin, terrible. Là. J'irais pour l'Est, ouais.
OK, parfait. Et dernière question pour Jérémy. Tenant pour acquis que le Canadien a une équipe suffisamment solide pour faire les séries, que manque-t-il à l'organisation pour aller jusqu'au bout? Des cibles pour Bergevin, peut-être d'ici la date limite des transactions, que mettre sur la table comme appât? C'est une question de Guillaume Fournier.
Une chose est sûre, c'est que on est en mesure de voir que si le Canadien était dans la course pour aller chercher les services de Pierre-Luc Dubois, c'est que là, on a des outils. On a quelque chose pour transiger si on a besoin de transiger ce qu'on n'avait pas auparavant. T'sais, pas de jeunes espoirs, pas de talent qu'on est capable d'échanger rapidement, pas de gars dans une situation contractuelle qui pourrait changer de place. On en a chez le Canadien. Bon. Qu'est-ce que Marc Bergevin va faire avec ça? Et surtout, quand vous dites c'est une équipe qui est solide pour faire les séries, qu'est-ce qui manque pour aller jusqu'au bout? Moi, je vais vous répondre humblement, je ne le sais pas, parce que je ne connais pas l'équipe encore. J'ai hâte de voir comment l'équipe va se comporter dans une situation difficile, quand il y aura 3 défaites de suite, quand il y aura des blessures, si Carey Price est blessé, si Josh Anderson est blessé, si Suzuki est blessé, comment les gars vont réagir? Est-ce qu'on a, on parle de la profondeur, c'est le fun, Corey Perry est rentré sur le troisième trio, c'est Armia qui était pas là. Mais si on arrive avec des gars plus importants, si on a des séquences de défaites, je ne le sais pas. Fait que pour moi, il est difficile aujourd'hui de vous dire « Ah, on a besoin de ça » parce qu'on n'a pas vu totalement les faiblesses de l'équipe. On peut l'imaginer sur papier, mais sur la glace, pour moi, il est vraiment trop tôt pour se prononcer.
Moi, je vois pas trop le Canadien ajouter ben des pièces. Là, je pense qu'ils sont quand même... je pense que Marc Bergevin avait bien prévu le coup, là, sachant que ça va probablement être compliqué de faire des transactions. Bien équilibrer son équipe dès le début, je veux dire, son poste dans une mauvaise situation. De toute façon, on verra là, la date limite des transactions, c'est pas avant le mois d'avril. Alors voilà, c'est le tout. Et justement, les rumeurs qui circulaient là, ce matin sur les médias sociaux, là, c'était que Columbus voulait justement Suzuki et que le Canadien n'était pas prêt à le laisser partir. Bon, ben les gars, merci beaucoup.
Un plaisir d'avoir été là.
Ben oui, on se retrouve à la fin de la semaine encore une fois. Jérémy Rainville, Alexandre Pratt et Michael Lalancette, merci d'avoir été des nôtres. Merci aussi à Geoffroy Morin à la mise en onde. Mon nom, c'est Jérémy Filosa. Et on se retrouve à la fin de la semaine pour un autre épisode de Sortie de zone. Salut tout le monde!